Bienvenue dans Resport, le rendez-vous où sport et technologie se croisent pour repousser toujours plus loin les limites de la performance. Je suis Erwan Benek et dans chaque épisode, nous explorons les innovations qui transforment l'entraînement, les compétitions et la façon dont les athlètes se surpassent. Aujourd'hui, pour ce cinquième épisode spécial Sportech, nous allons découvrir l'incroyable parcours de Vincent Guillaume. À un an des Jeux Olympiques de Paris 2024, Vincent a pris l'audacieuse décision de quitter sa thèse à l'INSEP pour se consacrer pleinement à un objectif. Coacher et faire briller ses athlètes sur la scène olympique. Et il a relevé le défi. En moins d'un an, il a propulsé l'un de ses athlètes corentin, Le Clésio, vers une performance exceptionnelle, lui permettant de décrocher son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris. Son secret, de la tech, beaucoup de données, de l'IoT, de l'analyse et une bonne dose de panache.
Bonjour Erwan, merci pour l'invitation déjà. J'ai 26 ans, Vincent Guyot, j'ai 26 ans. Je suis entraîneur assistant de OAC Europe pour On Athletic Club, qui est un des seuls groupes professionnels d'athlétisme qui rassemble des demi-fondeurs de plusieurs nations différentes, dont 8 se sont qualifiés aux derniers Jeux Olympiques de Paris.
Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un petit peu de On pour ceux qui ne savent pas ?
Oui, alors On, c'est une marque suisse, et pour parler de cette partie performance un peu qui me concerne davantage, qui a décidé il y a quelques années déjà de regrouper à différents endroits du monde, un groupe aux États-Unis, un en Océanie, un en Europe, une partie de ses athlètes sponsorisés pour les faire s'entraîner ensemble, avec là, l'idée que collectivement, un peu sur un modèle très... université américaine aussi, parce que c'est un peu de là que vient l'idée aussi, de pouvoir regrouper au même endroit des athlètes s'entraînant ensemble pour voilà, mettre de la dynamique un peu collective et un peu de synergie à tout ça, quoi.
Et je crois que On, c'est une marque dans laquelle a investi Federer, c'est ça ?
Ouais, exactement. Ouais. C'est une marque qui est récente, mais voilà, qui est en train de plus en plus d'essayer de prendre un peu des parts de marché, on va dire, sur le milieu concurrentiel de la course à pied notamment, mais aussi dans d'autres sports, parce qu'ils sont notamment investis dans le tennis dernièrement. Donc ouais, c'est un peu une des marques montantes dans le secteur.
Donc je pense qu'on a un petit peu vu où se situait On sur le marché du sport. Donc c'est une marque assez récente, assez jeune, mais c'est pas trop sur cette marque qu'on va s'attarder aujourd'hui. J'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ton parcours. Donc tu es passé par l'INSEP, certes pas en tant qu'athlète, mais tu as quand même eu l'immense privilège de faire partie d'un programme qui était assez nouveau, je crois, pour l'époque. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, alors moi j'ai eu un cursus STAPS en fait au départ, donc j'ai fait deux licences STAPS du côté d'Amiens avant de rejoindre l'INSEP en effet, dans un master qui était dédié à l'expertise et la performance de haut niveau, c'est le nom du master, et qui visait à former des membres de staff, on va dire, d'équipes professionnelles ou autour d'athlètes professionnels en tout cas. Donc j'ai fait mon master là-bas sur 2 ans, qui est finalement le seul cursus à l'INSEP pour les athlètes, enfin pour des étudiants pardon, non sportifs de haut niveau, puisque pour tout le reste de ceux qui gravitent à l'INSEP, c'est des étudiants qui sont aussi sportifs en même temps. Donc c'est le seul cursus qui est dédié aussi à des non sportifs de haut niveau, on va dire.
D'accord. Et donc je crois que vous étiez à peu près une dizaine dans cette promotion, c'est ça ?
Oui, un peu plus, mais en fait il y a une partie de cette promotion qui travaille plus sur ce qu'on appelle l'accompagnement scientifique à la performance, ce qui était ma filière, et une autre partie qui est plutôt dédiée à ce qu'ils appellent la conduite de projet en milieu fédéral, donc c'est plutôt des gens qui visent à intégrer directement les fédérations, peut-être moins en contact des athlètes, mais plus au contact des grandes directions, des fédérations et ce genre de choses, donc il y avait deux branches, on va dire.
D'accord. Et donc toi concrètement, si je résume un petit peu ton quotidien, à l'époque, tu étais quand même amené à aller sur les terrains d'entraînement pour accompagner ou seconder soit les chercheurs, soit les coachs pour analyser un petit peu ce qui se faisait sur les différents terrains.
Alors j'étais surtout passionné d'athlète déjà depuis quelques années, puisque depuis le collège, on va dire, je suis pratiquant moi-même, mais surtout très intéressé, passionné par la pratique. Et ensuite, oui, alors dans la partie qui m'a incombé en tant qu'étudiant, il y a une partie qu'on dédie à ce qu'on appelle l'accompagnement scientifique à la performance. Donc dans ces missions, on était en effet en soutien à l'INSEP ou parfois à l'extérieur sur des compétitions des athlètes de haut niveau pour effectuer des mesures, faire un tas de tests, du reporting et ce genre de choses. Donc j'ai été amené à le faire un peu, mais surtout je continuais moi à passer beaucoup de temps sur le terrain parce que j'avais envie de forger mon œil, de me faire un réseau et ainsi de suite. Donc j'avais une part qui était dédiée à, enfin liée à mes missions en tant que stagiaire ou que étudiant de master classique, on va dire, à l'INSEP, et il y avait une partie qui était juste du temps libre que moi j'essayais de mettre à profit de ma progression, on va dire, en tant que membre de staff ou voilà, mais je me destinais plutôt à être sport scientist parce que c'était un peu l'idée du master que directement entraîneur quoi.
Et d'ailleurs, donc toi, en tant qu'apprenti chercheur à l'époque, hein, et en tant que passionné de sport, donc tu étais vraiment dans l'arène où il fallait te trouver pour pouvoir reprendre ton pied. Est-ce que tu as des souvenirs de 2-3 choses qui t'ont marqué lors de ton passage à l'INSEP vis-à-vis des athlètes ou vis-à-vis de la manière dont tu pouvais travailler avec les athlètes ?
C'est difficile de retenir un moment marquant. Je dirais que ce qui est particulier, c'est qu'au départ, c'est sûr... Quand on arrive à l'INSEP, on a l'impression d'être arrivé, justement, d'être arrivé un peu au bout d'un cursus, alors qu'en fait, c'était le départ, puisque je démarrais seulement un master, puis après, j'ai débuté une thèse. On n'est jamais vraiment à la fin du process. D'ailleurs, moi, je ne l'ai pas terminé, ce process. J'ai changé un peu de direction entre-temps. Mais non, ce qui est particulier, c'est qu'au départ, quand on arrive avec ce regard passionné, on croise beaucoup d'athlètes, évidemment, et puis au fur et à mesure du temps, on apprend à être à une place de conseils, d'être à la bonne place pour aiguiller les coachs, à prendre des meilleures décisions, parce que c'était un peu aussi le mantra du master notamment. Donc non, je dirais que juste qu'on s'habitue à croiser des athlètes de renom, ce qui nous surprend ou ce qui nous impressionne un peu au début quoi. Mais j'ai pas vraiment une anecdote marquante de tout ce temps. Ça a été très riche évidemment. Ce qui est surtout génial, je pense, c'est d'avoir autant de personnes, de ressources au même endroit, quoi. Et ça, c'est vrai que on s'en rend compte surtout quand on est de l'extérieur et qu'on arrive ou quand on en repart. Mais c'est vrai que sont concentrés beaucoup de moyens humains, matériels, au service de la perf de haut niveau. Donc ça, c'est en France, c'est sûr que c'est très rare.
Et c'est marrant parce que tu dis que quand on arrive à l'INSEP, on croit justement être arrivé. C'est drôle. Quand j'imagine l'INSEP et quand j'imagine vraiment toute la théâtralisation qu'on peut avoir quand on passe les grilles, il n'y a pas une seule feuille qui dépasse, tout est bien symétrique, tout est super bien entretenu. On a un petit peu aussi l'impression d'être Harry Potter qui arrive à Poudlard, quoi. C'est un peu un rêve qui se réalise. Et au fil du temps, on se rend compte que, qu'en fait, avec le niveau, en tout cas avec les connaissances qu'on pourrait... avec lesquels on pourrait arriver à l'endroit, on pourrait se dire bon je pèse entre guillemets, et en fait on se rend compte qu'on est personne et qu'on a encore tout à apprendre et que c'est vraiment que le début.
Ouais, alors j'irai pas jusque là dans ce que tu dis, mais en tout cas c'est clair que, enfin moi j'y suis pas allé en tant qu'athlète, ce qui est différent de ton parcours à toi, mais c'est vrai que oui, c'était une grande satisfaction d'arriver là, parce que je pense toujours que c'était un super endroit pour se développer, pour acquérir des connaissances, des compétences, et surtout ce que je disais juste avant, croiser, discuter, échanger avec tous ceux qui, en tout cas une grande partie de ceux qui en France sont liés à cet écosystème de performance, parce que énormément de fédérations ont leur groupe équipe de France à l'INSEP, notamment des sports collectifs, mais aussi dans d'autres sports. Donc ça, c'était très très riche. Mais comme tu le dis, oui, on se rend compte que, en fait, on n'est jamais arrivé, mais bon, ça vaut pour tout dans la vie. Hein. On a toujours des étapes. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien. Mais ouais, j'ai eu ce sentiment, avec le recul, les mois qui ont suivi mon arrêt de la thèse, j'ai eu ce sentiment de, finalement, quand tu es arrivé en tant qu'étudiant en master, tu étais très, très content. Tu te disais, j'ai fait un beau pas en avant. Quand j'ai obtenu un financement doctoral, c'était la même chose, de pouvoir rester à l'INSEP 2 ans de plus pour continuer à acquérir des connaissances. Et puis en fait, on se rend compte que parfois ça se passe pas aussi facilement que ça en a l'air, et que parfois on prend d'autres décisions que celle de continuer le chemin classique, on va dire quoi.
Le chemin tracé. Et justement, j'y viens parce que c'est ça qui est intéressant finalement dans ce passage à l'INSEP, c'est que au final, tu avais quand même réussi à atteindre ce qui pourrait s'apparenter à être au Graal dans ta position, ou en tout cas, ça faisait partie d'un processus qui était clairement défini. Et malgré tout, donc, tu as stoppé ta thèse en plein vol, si je puis dire.
Ouais, alors au Graal, à nouveau, non, enfin, j'irai pas jusque-là, mais oui, c'est vrai que j'étais très content d'avoir obtenu cette position-là. Donc il faut savoir que quand tu obtiens une thèse, certains sont financés, ce qui était mon cas, d'autres ne le sont pas. Donc moi j'avais une situation qui était plus facilitée que plein d'autres doctorants qui parfois doivent eux-mêmes investir le coût de leur thèse pour passer ce step-là et être docteur dans quelque champ que ce soit. Moi j'avais la chance d'avoir un financement, donc c'était d'autant plus particulier que de décider de partir de ce financement, de quitter ce financement pour 3 ans. Donc moi j'ai fait 2 ans de thèse, et puis en effet j'ai pris la décision pour un ensemble de raisons, que peut-être finalement j'étais pas à la meilleure place, qu'il y a des choses qui me convenaient moins que ce que j'imaginais au départ, que l'aventure était plus solitaire que ce que je pensais, plus éloigné de ce qui m'intéressait vraiment, c'est-à-dire un peu plus je perdais le sens concret de certaines choses, de ce que je voulais faire au départ. Et pour l'ensemble de ces raisons, et finalement, j'ai décidé de partir après un peu plus de 2 ans à l'INSEP.
Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir par quel processus intellectuel ou même sensitif, je ne sais pas, tu es passé pour te dire « Ok, c'est bon, il faut que j'arrête ma thèse. » Parce que j'imagine que ce n'est pas une décision que tu as prise du jour au lendemain.
Non, en effet. Je pense que... ce qu'on disait juste avant, le fait que c'est des situations qu'on idéalise au départ, ça rend difficile le fait de se dire en fait je peux aussi partir. Enfin, c'est aussi possible. Une des choses à laquelle j'ai pensé avant de venir enregistrer ici, c'est que je me suis dit en fait on n'entend jamais parler ou très peu parler de ceux qui décident d'arrêter leur thèse. Je ne sais pas combien de personnes en France par an démarrent une thèse, mais c'est beaucoup de gens, de plus en plus d'ailleurs certainement. Et en fait il y a une part de ces doctorants qui ne seront jamais docteurs. Pour des raisons très diverses, mais on n'entend jamais parler de cette possibilité aussi que parfois, quelles que soient les raisons, on peut s'arrêter, on peut changer de voie, on peut décider de faire autre chose, autrement. Et moi, ça m'a un peu mangué parce que j'avais l'impression, dans les moments où je me suis posé des questions, j'ai jamais vu passer de contenu sur finalement, on peut faire autrement, on peut décider de sortir de ce cadre-là. Parce que 3 ans, finalement, c'est long et en même temps, le temps file très très vite. On a des échéances, mais elles sont assez long terme la plupart du temps. Donc c'est difficile aussi de se forger un peu des étapes soi-même en autonomie dans son parcours de doctorant. Ça m'a, je pense, pas mal affecté et rendu plus compliqué les choses. J'aurais peut-être eu besoin d'avoir davantage d'étapes où je me dis là où est-ce que j'en suis, et ainsi de suite. Sur un travail de 3 ans qui parfois fait même 3 ans et demi, 4 ans, parce que souvent on déborde de cette période de financement. C'est quelque chose qui n'est pas évident à faire. En tout cas, je n'avais pas les compétences pour faire ça. Et donc oui, finalement, petit à petit, pour de la baisse de motivation, des situations différentes qui peuvent arriver, et surtout le fait qu'on se rende compte que peut-être il y a d'autres opportunités différentes, plus proches de ce à quoi on aspire, qui se dessinent. Ce qui s'est passé pour moi à l'été 2023, donc l'été dernier en fait, en me disant finalement peut-être que moi je faisais une thèse pour acquérir plus de compétences, parce que je ne me sentais pas arrivé au bout du process, et je voulais aussi donner du poids à mon CV, parce que je savais que dans l'écosystème d'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'étudiants qui font des thèses en sciences du sport, et donc pour avoir les postes les plus proches du haut niveau, en général, c'est les gens qui ont fait les études les plus longues, la plupart du temps, ça se vérifie, dans tous les sports co qui ont investi, qui ont maintenant des staffs très professionnels autour de ça, la plupart des gens sont des gens qui ont eu un doctorat donc c'était aussi pour ça, pas juste pour avoir une thèse, mais parce que c'était un vrai plus pour la carrière de façon générale, et aussi parce que surtout j'avais pas encore acquis les compétences nécessaires qui me permettaient de me dire je suis légitime et je vais essayer d'avoir un poste dans le haut niveau donc les choses se sont un peu éclaircies, et puis j'ai rencontré à l'été 2023 celui qui est aujourd'hui l'entraîneur en chef dans le groupe où moi je suis entraîneur assistant. Et on a commencé à échanger sur l'entraînement en général.
Et donc, la réflexion commence à prendre forme dans ton esprit. Et à un moment donné, tu te sens prêt à prendre une décision. Et en parallèle, il faut savoir que tu entraînais déjà un petit peu des athlètes, soit à distance, soit en présentiel, si je puis dire. Et je crois que c'est à ce moment-là aussi que tu as eu notamment l'opportunité de coacher aussi un athlète qui était un petit peu à haut niveau à l'époque par rapport aux autres athlètes que tu as entraînés.
Oui, alors sur la fin de ma thèse, on va dire la deuxième partie de ma thèse, je commençais vraiment un peu plus à passer du temps à entraîner. J'avais déjà depuis quelques années réfléchi à est-ce que ça pouvait être une opportunité. Elle ne s'était jamais vraiment présentée. Et en effet, j'ai commencé à coacher quelques athlètes de niveau, on va dire, régional à national, plutôt à distance, 2-3, et puis progressivement s'est fait le rapprochement avec Arthur Gervais et Corentin Leclésio, qui tous les deux du coup étaient des athlètes de, enfin ils sont toujours d'ailleurs des athlètes de haut niveau, et j'ai commencé avec, avec Arthur, puis très rapidement avec Corentin il y a un an maintenant, un peu plus, à entraîner quoi.
D'accord, et justement là on arrive à un point qui est quand même déterminant et essentiel dans ta jeune carrière, c'est que finalement donc tu coaches Arthur Gervais et donc Corentin Leclésio, c'est ça hein?
Oui.
Et il se trouve que tu emmènes Corentin aux Jeux Olympiques, ce qui est quand même exceptionnel parce que c'était des Jeux à domicile et que les minima pour les JO franchement elles sont loin d'être évidentes à atteindre. Et donc l'histoire est encore plus belle parce que Corentin fait une saison qui est vraiment phénoménale et il bat son record à plusieurs reprises, et c'est ce qui lui permet finalement, dans une discipline où la densité est extrêmement élevée en France, je crois qu'aujourd'hui en France la discipline qui a le plus de densité c'est vraiment le 800 mètres masculin, et il arrive à tirer son épingle du jeu, enfin vous arrivez à tirer votre épingle du jeu pour aller aux Jeux Olympiques.
Ouais, alors une année très riche, hein, que ça me paraît tellement loin, mais au final c'était il y a à peine un an hein, qu'on a commencé vraiment à travailler ensemble un peu plus sérieusement. Donc ouais, en fait moi ce qui m'a plu beaucoup c'est que j'ai réussi, en tout cas je parviens à l'entraînement à essayer de mettre en place ce que j'ai vu pendant mes études et comment je peux utiliser la science de façon générale pour prendre des meilleures décisions, essayer de prendre des meilleures décisions grâce... mes lectures, grâce à des outils qu'on peut utiliser à l'entraînement pour recueillir des données, prendre des décisions différentes. Donc ça c'est super stimulant, et le fait est que ça a marché très vite avec lui et avec les autres, mais surtout très bien très vite avec lui. Et en effet dès l'hiver il a battu son record en salle la saison dernière, cet hiver, et puis ensuite l'été a été exceptionnel comme tu disais. C'est Il avait l'ambition l'an dernier, quand on a discuté d'être à ce niveau-là, il avait l'ambition d'être faire les Jeux Olympiques, même si ça pouvait paraître assez fou parce qu'il courait pas encore, enfin il est encore assez loin de ses minima, surtout par rapport à la saison globale qu'il avait faite. Et au final, il a passé très vite les échelons, comme tu l'as dit, il a battu son record dès son entrée en compétition et il a gagné la seconde et demie qui lui manquait pour se rapprocher des minima, pour finir à une 44-25, donc plus d'une demi-seconde sous les minima olympiques même. Donc ouais, c'est assez fou le parcours qu'il a eu en très peu de temps. Surtout que, comme tu le dis derrière, il a fallu obtenir sa place puisque le 800 mètres français est dans un état d'effervescence assez dingue. Mmh. Et donc ils étaient 4 pour 3 places. Et donc il y avait encore cette étape de championnat de France pour obtenir une place aux Jeux Olympiques.
Et juste pour qu'on puisse s'en rendre compte, il a gagné combien de secondes en une saison exactement ?
Alors en fait, l'an dernier, il avait déjà couru une 45-60. Donc il a gagné une seconde 4 cette année, mais le 1.45.60 était déjà un gros gap par rapport à ce qu'il avait fait la saison précédente. Donc il était déjà en grosse progression avant même qu'on travaille ensemble. Et voilà, on a franchi le cap restant, on va dire, pour se rapprocher des Jeux Olympiques. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ou 3 ans, il était complètement dans la masse de bon niveau, on va dire, mais dans la masse des, je sais pas, 15 ou 20 Français, quoi. Mmh. Il n'était pas prédisposé, on va dire, à être au jeu, quoi.
Donc c'est assez incroyable. Et alors, pour informer les auditeurs, hein, donc, il me semble que l'aventure s'est arrêtée aux portes, dès les séries, pour Corentin. Mais bon, vu le parcours, c'est quand même déjà exceptionnel d'être arrivé à ce niveau-là. Et il a quel âge, Corentin ?
Il a 25 ans. Okay, il a 25 ans.
Il peut tout à fait envisager une nouvelle Olympiade. Donc c'est vraiment prometteur pour l'avenir. Donc tout à l'heure tu parlais de sciences appliquées au sport. Donc concrètement, comment toi au quotidien tu abordes ce prisme-là au plus près des athlètes ?
Ouais, alors juste pour rebondir sur ta réponse précédente, en fait il sort en série en effet. Donc il y a des repêchages maintenant aux Jeux Olympiques. Donc il y a 2 tours, mais il est sorti en série en effet pour 600e. Et je vais juste faire le point avec ça, on sort pour 600e, donc on chasse des tout petits pourcentages pour faire des différences qui font ensuite passer des steps et être demi-finaliste olympique et ainsi de suite. Donc je pense que ça insiste sur le fait qu'on devrait, de mon point de vue en athlète, être beaucoup plus connecté à ce que peut nous apporter la technologie, la science de façon générale, ce qui est aujourd'hui pas du tout le cas pour beaucoup d'athlètes de haut niveau. Et c'est assez, c'est dommage d'un côté, mais ça permet à ceux qui le font de faire des différences, je pense. En tout cas, c'est mon point de vue.
Et donc, c'est juste pour rebondir là-dessus, d'après toi, qui est-ce qui devrait porter cette mouvance-là? Est-ce que c'est plutôt les coachs, les clubs, la fédération, les athlètes eux-mêmes qui devraient s'impliquer davantage?
C'est très compliqué. Je pense qu'il y a un gros point qui est culturel. Tu connais très bien l'athlète, tu sais que ça semble très figé comme milieu. Alors parfois, dans le sport de niveau, c'est déjà le cas. Mais quand on voit comment les sports collectifs se sont structurés, staffés, intéressés à ces questions il y a déjà plusieurs années, même en France, on se rend compte qu'en athlée, on a très très peu bougé. Ça a tendance à bouger un peu, il y a des initiatives qui se font. Côté fédéral, il y a une cellule d'optimisation de la performance, on va dire, qui s'est montée. Donc il y a des anciens doctorants qui travaillent maintenant dans cette structure, donc ça bouge un peu, mais tout ça, ça prend quand même du temps. Et surtout, sur le terrain, en dehors de ça, on se rend compte que c'est... Non seulement on ne s'y intéresse pas, mais en plus, souvent, c'est vu comme... je ne sais pas comment je pourrais qualifier ça, mais pas impur ou pas... Non, mais vraiment, ouais, c'est vraiment ça qu'on ressent. On se dit, voilà, c'est pas ça, entraîner et prendre des décisions avec des données, ça paraît, moins pur que d'entraîner plus à l'œil, au flair, avec l'œil du maquignon de l'entraîneur, quoi. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir beaucoup de temps pour que l'athlète s'empare de ces sujets-là, que ce soit utilisation des outils ou faire avancer peut-être certaines méthodes d'entraînement ou certains concepts de l'entraînement grâce à ce qu'on sait aujourd'hui et depuis plusieurs années sur des thèmes un peu plus précis, quoi, par rapport à ce qu'a publié la science, quoi.
Alors effectivement, moi je pense que c'est un mélange de plein de facteurs qui font qu'au final, on n'arrive pas forcément à passer ce cap. Je pense qu'il y a une histoire de chasse gardée aussi un petit peu de certains coachs qui ont peut-être peur en fait d'être dépassés ou qui ont peut-être peur de se lancer dans quelque chose qu'ils ne maîtriseraient pas et qui ferait qu'on les remettrait en question. Il y a aussi forcément des problèmes de connaissances, de compétences. Et puis peut-être d'accompagnement. Mais effectivement, comme tu dis, il y a des démarches qui existent déjà. À la FFA, effectivement, il y a un pôle performance. Je crois qu'ils sont 3 à bosser sur ces sujets-là. Et puis après, il y a des jeunes coachs comme toi qui essayent de faire bouger les lignes. Et du coup, on en revient au deuxième point. Concrètement, toi, comment ça se traduit sur le terrain? Comment ça se traduit auprès des athlètes et au cours d'une saison?
Ouais, alors à nouveau, hein, je me permets de rebondir, mais c'est faut être. Enfin, je pense que l'entraînement c'est aussi l'exercice d'être super humble. Donc, plutôt que de dire qu'il serait mieux de faire autrement, en tout cas d'y être ouvert. Moi, c'est ça que j'essaie de prêcher et de faire comprendre à certains qui sont très fermés au sujet, de dire on respecte que vous puissiez vous entraîner d'une certaine façon, mais considérez aussi que d'autres puissent faire autrement. Et avoir aussi des progrès, des résultats intéressants, quoi.
Oui, pourquoi pas garder le meilleur des deux mondes.
Et puis, il n'y a pas de réalité. Enfin, je veux dire, le modèle marcherait peut-être beaucoup moins bien avec d'autres. Il faut juste adapter un peu ce qui nous correspond, parce que le but, c'est de faire performer les athlètes au niveau individuel, et ce n'est pas de faire du copier-coller de ce qui peut marcher ailleurs chez nous, quoi. En tout cas, c'est ce que je vois, moi.
Donc, quelque part, en fait, quand je m'arrête sur ta réflexion, là... J'ai l'impression que l'enjeu se situe plutôt sur comment en fait est-ce qu'on trouve l'équilibre entre ce qu'on va appeler le flair et en fait les outils qui pourraient nous aider à prendre des décisions. Et je pense qu'il est vraiment pas simple à trouver.
Exactement. Je pense qu'une des limites majeures est ce qui fait que quand on parle de mesurer des choses, n'importe quelle métrique dont on parle, dont on puisse parler, souvent ce qui freine les gens, c'est ah oui, mais moi je vais perdre mon apport. Mais en fait, c'est pas du tout ça l'idée. Nous, on décide pas par rapport aux données. On essaye de les utiliser pour prendre des meilleures décisions. Et c'est très différent de dire l'ordinateur dit que tu dois pas courir de telle façon, versus j'ai un ensemble de données que j'ai regroupées. Et d'ailleurs, c'est pas une donnée, c'est différentes sources de données. Et on essaie grâce à elles et nos ressentis, les échanges qu'on peut avoir, c'est pas à la place, quoi. C'est vraiment un aide plus qu'une décision numérique, ou voilà, c'est vraiment pas l'idée. Mais souvent, c'est vrai que je pense que ça effraie encore beaucoup de coachs qui sont très très terrain et très qui utilisent très peu les outils techno pour récolter des données, quoi.
Très bien, merci. Et du coup, donc on arrive à ce deuxième point. donc je répète pour les auditeurs, comment est-ce que toi tu arrives à mettre donc ta vision de l'optimisation de la performance en place auprès des terrains matériellement, comment ça se traduit d'un point de vue raisonnement, comment ça se met en place.
Déjà, je pense que en fait, l'athlète, c'est un sport qui est très simple à analyser par rapport à bien des sports. Si on regarde les sports co, où on a des adversaires, des partenaires, des incertitudes, on n'a pas ça en athlète, à moins qu'on analyse le relais ou des choses comme ça. Au final, il y a une composante tactique, oui, mais là, on peut analyser les choses de façon très simple. La piste, elle fait toujours la même distance, on court dans le même sens. Enfin, je veux dire, c'est très, très arrêté comme cercle d'exercice. Et ça rend, je pense, ça devrait rendre très facile les initiatives de récolte de données à l'entraînement et en compétition. Pas vraiment. C'est en train de bouger, mais pas vraiment. Donc nous, ce qu'on fait, il y a pas mal de choses. C'est pas des choses extraordinaires, à nouveau, parce que justement, je pense qu'on peut faire des choses très simples et qui ont du sens, qui peuvent marcher. Ça va de analyser la compétition avec des métriques objectives, c'est-à-dire pas juste s'arrêter sur quelles étaient tes intentions tactiques aujourd'hui, comment t'as couru, mais aussi récolter des données sur comment a évolué ta fréquence de foulée pendant ton 800 mètres, par exemple, comment elle a évolué par rapport aux autres fois, par rapport à tes adversaires, comment a évolué ton allure au cours du 800 mètres, avec de l'analyse vidéo par exemple, ou d'autres techniques, mais rien qu'avec de l'analyse vidéo, on peut faire des choses déjà très intéressantes. Et rien que ça, ça paraît très simple, et il y a très très peu de gens qui le font. Même au plus haut niveau, il y a très très peu de gens qui s'intéressent à ça, parce qu'on se dit, ça apporte pas dans l'analyse, et nous on s'inscrit complètement à l'opposé de ça, parce que je pense que ça apporte beaucoup de contexte à comment se réalise la perf, et ça nous aide à mieux objectiver ce qui s'est passé pendant la course. Et à nouveau, c'est pas à la place des sensations, c'est en plus pour faire écho à comment les athlètes perçoivent aussi ce qui a pu se passer objectivement. Et après, à l'entraînement, c'est plus large de ce qu'on va faire. On utilise, nous, dans notre approche, beaucoup de contrôle des intensités. Donc on utilise pour ça notamment la lactatémie, qui est en train en France de bouger un peu, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui mesurent ça. Donc pour faire très court, on mesure une concentration de lactate dans le sang. Donc on fait des prélèvements au milieu de l'entraînement, après l'entraînement, pendant les séances, pour mieux comprendre, objectiver dans quelle zone d'entraînement se trouvent les athlètes quand ils s'entraînent. Et on guide beaucoup les intensités à travers ces valeurs. C'est-à-dire qu'on utilise ces valeurs toutes les semaines à l'entraînement, parfois plusieurs fois dans la semaine, pour se rendre compte dans quelle zone on travaille et si c'est juste par rapport à ce qu'on voulait mettre en place au départ.
Est-ce que tu peux préciser pour les auditeurs comment se génère le lactate en fait, parce que je pense que tout le monde n'est pas au fait, surtout s'ils n'ont pas fait de 800 ou de 400.
Ouais, alors je ne vais pas rentrer dans un cours de physiologie, mais en effet, 800 mètres, c'est un effort où il y a une très forte acidose métabolique qui arrive, c'est-à-dire que l'oxygène ne suffit pas, l'apport en oxygène ne suffit pas à produire assez d'ATP pour créer l'énergie nécessaire à courir le 800 mètres. Donc on a besoin, oui, de l'oxygène, évidemment, mais on a aussi besoin de recycler justement ce lactate pour en faire de l'ATP additionnel à celui que fournit l'oxygène. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est un effort qui est très difficile et qui, métaboliquement pour l'organisme, est aussi très difficile. Donc on essaie d'entraîner vraiment en contrôlant beaucoup les intensités pour pas se fatiguer trop par rapport à ce qu'on pouvait attendre sur une séance donnée, par exemple. Donc globalement, nous, par rapport à d'autres groupes, d'autres visions, on s'entraîne moins difficilement, on va dire, parce qu'on essaie d'entraîner au maximum cette phase-là, et donc être très efficace à recycler des lactates pour faire de l'ATP. C'était un peu technique, mais tout ça pour dire que c'est un peu notre vision, quoi, et que ça s'inscrit parfois un peu à rebours de ce que d'autres font, avec du succès pour certains, avec moins de succès pour d'autres. Mais il y a des philosophies, quoi, il y a des écoles, tout n'est pas toujours tout blanc ou tout noir. C'est aussi ce que m'a appris mon parcours à l'INSEP. Quand on s'intéresse à la science, au départ on se dit il y a une vérité vraie, on va la chasser, on va la trouver, puis on se rend compte qu'en fait il y a toujours des limites un peu partout. Et à nouveau, l'idée, c'est juste de trouver un système qui fait performer individuellement l'athlète qu'on entraîne et pas copier un modèle qui marcherait pour quelqu'un d'autre.
Et voilà qui conclut la première partie de notre conversation avec Vincent Guillot. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Dans le prochain épisode, nous plongerons encore plus profondément dans les outils et les méthodes concrètes qu'il utilise pour entraîner ses athlètes. Restez avec nous, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et à très bientôt.